Puis il est 18h sur France Culture, l'heure du journal. Présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays mettent temporairement fin à leur bras de fer. Nous irons à Washington dans un instant. Démission surprise du gouvernement russe. Elle intervient juste après l'annonce par Vladimir Poutine d'une réforme de la Constitution devant renforcer les pouvoirs du Parlement. Claude Bruyot nous en dira plus depuis Moscou. Pour Édouard Philippe, pas question de ralentir la transformation du pays. Il fixe le calendrier des principaux chantiers pour les 6 prochains mois et juge que la grève dans les transports publics n'a que trop duré, analyse d'Anne Fauquemberg. Et puis Ségolène Royal dans le viseur de la justice. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur l'usage qu'elle a fait des moyens mis à sa disposition pour sa mission d'ambassadrice des pôles. Chine et États-Unis font donc la trêve. Le président américain et le vice-premier ministre chinois signent à la Maison-Blanche un traité qui suspend la guerre commerciale entamée au printemps 2018. Ce conflit s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises, ce qui a freiné l'appétit des investisseurs et donc la croissance mondiale comme la croissance chinoise et américaine. Grégory Phillips, vous êtes en direct de Washington. C'est la première phase de l'accord commercial qui est signé aujourd'hui.
Oui, la cérémonie de signature de cet accord de phase 1 vient de débuter dans la East Room de la Maison-Blanche. Vous entendez peut-être derrière moi Donald Trump qui prononce ce discours avec à son côté le vice-premier ministre chinois, principal négociateur dans ce dossier. Et Donald Trump vient de dire que c'est un accord historique que les deux premières puissances économiques mondiales viennent de signer. Ensemble, nous réparons les erreurs du passé. Il remercie personnellement le président chinois Xi pour cet accord qu'on aurait dû signer il y a déjà 25 ans. Alors, vous l'avez dit, c'est un accord partiel de phase 1. Pour l'instant, Washington prévient d'ailleurs, il n'est pas encore question de lever les tarifs douaniers de 25% imposés à 250 milliards de dollars d'importations chinoises. En revanche, d'autres tarifs seront réduits de moitié, puis une autre partie annulée. Et dans l'autre sens, eh bien, Pékin s'engage à acheter plus de produits fabriqués aux États-Unis, notamment des produits manufacturés, des voitures, des avions, et puis des produits agricoles, on pense au soja américain, pour une enveloppe totale d'environ 200 milliards de dollars. Mais nous n'avons pas encore pour l'instant les détails de cet accord commercial. On les aura sans doute après la signature. En tout cas, pour Donald Trump, l'annonce de ce demi-accord est une bonne nouvelle politique, à moins de 10 mois, évidemment, de la prochaine présidentielle américaine.
Merci Grégory Phillips, en direct de Washington. La suite des préparatifs du procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a présenté l'équipe de procureurs qui seront présents lors du procès. Ils seront supervisés par Adam Schiff, ancien procureur fédéral en Californie. La déforestation en Amazonie brésilienne accélère. Elle a augmenté de 85% sur un an, révèle l'Institut de recherche spatiale. Mais les alertes désespérées des scientifiques se heurtent au déni des autorités brésiliennes. La correspondance d'Anne Vigna.
Chaque mois, les chiffres de la déforestation en Amazonie renforcent les craintes des écologistes et des scientifiques brésiliens sur l'imminence d'une catastrophe. Certains, comme le climatologue Carlos Nobre, un des meilleurs spécialistes de la grande forêt au Brésil, considèrent qu'on a déjà atteint le redouté point de non-retour. Ce fameux point signifie que l'Amazonie pourrait se transformer en savane à cause d'une déforestation trop importante qui va provoquer sécheresse et incendies dans le futur. En décembre dernier, la déforestation a augmenté de 183% par rapport à décembre 2018 qui montrait déjà une hausse importante. Au total, sur l'année 2019, l'augmentation est de 85% par rapport à 2018. Pour les spécialistes, il ne fait aucun doute que la politique du président Bolsonaro est responsable de cette hausse de la déforestation. Les effectifs de la police de l'environnement ont été énormément réduits et ses actions ont été sans cesse critiquées par l'exécutif. Pire, les punitions qu'elle a administrées dans le passé ont été amnistiées. D'autre part, scientifiques et ONG ont été montrés du doigt pour dénoncer cette situation, voire parfois accusés d'être les responsables de la déforestation. Les spécialistes ne savent plus comment alerter des autorités devenues sourdes et malhonnêtes. Et c'est donc vers la communauté internationale que les appels au secours sont désormais lancés.
Anne Vigna, le premier ministre russe Dmitri Medvedev a démissionné, une démission intervenue dans la foulée du discours annuel de Vladimir Poutine devant le Parlement. Le président russe a mis l'accent sur les réformes nécessaires pour lutter notamment contre la pauvreté et la crise démographique. Et il a par ailleurs annoncé une réforme constitutionnelle visant à renforcer le rôle du Parlement dans la formation du gouvernement. Le gouvernement qui a presque aussitôt démissionné, Claude Brouillot.
Oui, absolument. Il s'est écoulé moins de 2 heures entre la fin du discours annuel de Vladimir Poutine devant le Parlement et donc l'annonce de la démission de Dmitri Medvedev. Entre-temps, le président russe a pris le Premier ministre dans son bureau pour lui signifier donc son renvoi et celui de son gouvernement. Et si les événements se sont enchaînés à cette vitesse, c'est bien que le Kremlin a voulu démontrer son mécontentement face au bilan négatif de celui que tout le monde surnomme ici Dima, plus par moquerie concernant son train de vie princier que par familiarité affective. Car Medvedev était descendu à moins de 30% d'opinion favorable et ne pouvait plus de toutes les façons être d'un grand secours à Vladimir Poutine. Le président russe montre ainsi qu'il a beau avoir un agenda international très chargé, les affaires intérieures le préoccupent tout autant. Entre une hausse de la pauvreté qui concerne plus de 22 millions de Russes et une crise démographique confirmée, autant de revers donc pour l'occasion qui vont directement au passif de Medvedev, devenu ce soir le fusible idéal. Un mot sur la promotion éclair de son successeur, un certain Mikhail Mishustin, totalement inconnu du grand public, chef actuel du service fédéral des impôts, économiste donc de formation, et qui aura la lourde tâche, entre autres, de relancer la croissance du pays en misant sur la diversification de son économie, toujours très dépendante de sa manne pétrolière et gazière.
Claude Brouillot, en direct de Moscou. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte n'arrivent toujours pas à s'entendre au sujet du gigantesque projet hydroélectrique qui doit voir le jour sur le Nil. L'Égypte, située en aval, redoute d'autant plus la construction de ce grand barrage qu'elle dépend du fleuve pour plus de 90% de son approvisionnement en eau. En novembre dernier, les trois pays s'étaient engagés à trouver un accord avant aujourd'hui, mais les tensions sont telles que le Premier ministre éthiopien s'est tourné dimanche vers son homologue sud-africain et lui a demandé de jouer les médiateurs dans ce dossier pour sortir de l'impasse, Olivier Poujade.
Les trois pays s'en remettent aujourd'hui à l'autorité de Cyril Ramaphosa, qui héritera en février de la présidence tournante de l'Union africaine pour résoudre ce long, très long contentieux. Ce n'est donc pas aujourd'hui qu'une solution miracle apparaîtra pour apaiser le conflit autour des eaux du Nil. 97% des ressources hydriques de l'Égypte, situées en aval du chantier, proviennent du fleuve. En amont, les 6000 mégawatts que sera en mesure de produire le grand barrage Renaissance permettront à l'Éthiopie de donner une impulsion essentielle à son développement. Au centre des discussions, la durée de remplissage de cette gigantesque retenue. Les Éthiopiens prévoyaient initialement d'étaler l'opération sur 6 ans pour obtenir les 74 milliards de mètres cubes nécessaires. L'Égypte s'y oppose. Le président Sissi redoute une altération incontrôlable du débit du Nil et un accès à l'eau incertain pour 95 millions d'Égyptiens, protégés par un traité datant de 1929 et donnant les pleins pouvoirs à l'Égypte et au Soudan pour disposer des eaux du Nil. L'Égypte exige donc un nouveau calendrier de remplissage, inacceptable de l'autre côté du chantier. L'Éthiopie devrait patienter entre 12 et 21 ans avant de pouvoir faire fonctionner pleinement son barrage hydroélectrique. Son premier ministre soupçonne l'Égypte de ne pas vouloir trouver d'accord. Abiy Ahmed, récent lauréat du prix Nobel de la paix, déclarait même il y a quelques mois qu'aucune force ne pouvait empêcher la construction de ce barrage et, si besoin, que des millions de personnes pouvaient être mobilisées pour le défendre.
Les PDG de la SNCF et de la RATP sont actuellement reçus à Matignon. Au 42e jour de grève contre la réforme des retraites, il y a toujours des perturbations, même si la SNCF annonce un trafic quasi normal demain pour les TGV. 8 TER sur 10 circuleront et 3 Transiliens sur 4. La RATP évoque de son côté une légère amélioration. Pour Édouard Philippe, cette grève qui se poursuit est sans issue et n'a que trop duré. À l'issue d'un séminaire gouvernemental ce matin, le Premier ministre a dit reconnaître ce droit constitutionnel à se mobiliser pour manifester son mécontentement, mais il a aussi rappelé la détermination totale du gouvernement à mettre en place le système universel de retraite par points. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
La grève est donc sans issue pour le Premier ministre qui a vite expédié le sujet avant de passer à autre chose.
Oui, sur 25 minutes, Édouard Philippe a consacré à peine 3 minutes sur la réforme des retraites. Un Premier ministre qui se dit prêt à encore rassurer certaines professions comme les enseignants et les chercheurs auxquels il s'engage à donner des garanties solides. Quant à ceux qui dépendent des régimes spéciaux.
Nous avons veillé à trouver et à proposer des transitions longues dans les entreprises publiques de transport, conformément à ce à quoi nous nous étions engagés très tôt dans le processus de réflexion sur la mise en place de ce système universel de retraite. Et je pense qu'il est temps de sortir par le haut.
Édouard Philippe, vous l'avez dit, reçoit en ce moment même à Matignon Catherine Guillouard et Jean-Pierre Farandou, respectivement à la tête de la RATP et de la SNCF. Il attend leurs propositions sur le dialogue social et la reprise du travail dans les deux entreprises. La balle est donc dans leur camp. Pour Matignon, donc, la réforme des retraites, ça roule. Preuve en est, le Premier ministre s'est ensuite élancé dans une énumération très étoffée de son calendrier pour les 6 prochains mois, avec surtout cette thématique qui devrait irriguer toute la campagne des municipales, à savoir...
C'est l'incarnation de l'écologie au quotidien.
Avec dès le mois de février, donc, l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim, mais aussi le lancement d'une nouvelle stratégie bas carbone, mais dans la liste également, un plan de lutte contre l'islam radical, un livre blanc sur la sécurité ou encore une loi de programmation pour la recherche. Un Premier ministre qui a fini par vanter ses relations en complète fluidité avec le chef de l'État, comme pour bien se convaincre qu'au jour 42 de la grève, la séquence est terminée et qu'il ne sera pas remplacé.
Anne Fockenberg, le président de la République a présenté ses vœux à la presse cet après-midi, une tradition qu'Emmanuel Macron avait boudée l'an dernier en pleine crise des Gilets jaunes. Le ton, en cet acte 2 du quinquennat, a changé, Stéphane Robert. Aux journalistes rassemblés face à lui, il a notamment déclaré « Nous avons destin lié ».
Oui, le changement de ton est éclatant. Emmanuel Macron s'est montré très caressant à l'égard des journalistes cet après-midi. « Nous faisons œuvre commune », a-t-il expliqué, lui dans l'action et nous, journalistes, dans l'explication. Et il en va, selon le chef de l'État, de la survie de la démocratie.
L'administration...
En mettant en scène les grands débats qui traversent la société, en dépliant les problèmes, en dévoilant leur complexité, vous faites en effet œuvre de civilisation au sens où vous empêchez que les seules passions s'emparent de l'espace public et finalement que le peuple se réduise à l'état de foule.
Il s'est également justifié vis-à-vis des critiques qui lui ont été adressées par le passé, notamment celles qui l'accusent de vouloir museler l'information, avec la loi contre les fake news ou loi contre les infox, pour employer un néologisme. Une réglementation est nécessaire, a dit Emmanuel Macron, pour permettre à la presse de s'exprimer librement.
Les deepfakes, pour parler en bon français, comme on les appelle, et donc la capacité à produire une vidéo totalement trafiquée, qui a toutes les apparences de la vérité, les manipulations auxquelles on assiste, montrent bien que il faut à un moment et dans des circonstances particulières qu'on puisse collectivement définir quel est le statut de tel document, qui parle, d'où et avec quel matériau premier.
Enfin, le président de la République s'est exprimé sur la grève en cours à Radio France depuis le 25 novembre dernier et il a à la fois défendu la spécificité du modèle audiovisuel public français mais aussi évoqué sa nécessaire adaptation.
Stéphane... Je n'ignore rien de la grève en cours, en particulier à Radio France, mais nous devons continuer d'avancer. De faire vivre cette singularité au moment où elle est bousculée. Et chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités là où il est.
Emmanuel Macron a terminé son allocution en émettant des vœux de courage à la profession face à un monde qualifié comme étant en grande bascule.
Merci Stéphane Robert. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant Ségolène Royal et ses activités en tant qu'ambassadrice des pôles. Enquête ouverte en novembre, mais on ne l'a appris qu'au lendemain de l'annonce de son prochain licenciement. Cette enquête, confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, fait suite aux révélations de la cellule investigative de Radio France qui s'interrogeait sur l'utilisation que Ségolène Royal faisait des moyens affectés à sa mission d'ambassadrice des pôles. Les taux d'intérêt sont bas et devraient le rester encore un peu et le marché immobilier se porte très bien en France. De plus en plus de ménages français contractent des crédits immobiliers pour financer l'achat de maisons ou d'appartements. La hausse est de 7% en un an, ce qui a porté l'endettement des ménages à un taux record, d'où la mise en garde du gouverneur de la Banque de France. Selon lui, pour éviter la surchauffe, il faut absolument plafonner le montant des remboursements à 33% du revenu des ménages et ne pas dépasser 25 ans pour la durée des prêts. Mais cet avertissement adressé aux banques fait réagir les professionnels de l'immobilier. Ils jugent ce message trop alarmiste et la Fédération nationale de l'immobilier craint que certains ménages ne se retrouvent ainsi exclus du crédit. Écoutez Jean-Marc Torollion, le président de la FNAIM.
Nous avons des taux d'intérêt qui sont naturellement extrêmement bas et qui ont contribué à solvabiliser les ménages. Nous avons une situation économique globale qui, quoi qu'on en dise, et notamment par un effet revenu, permet à nos acquéreurs de se porter encore sur ce marché. Mais nous avons un point de vigilance, justement, c'est l'encadrement du crédit, ou en tout cas ce discours qui a été répété hier par le gouverneur de la Banque de France, comme quoi il fallait que les banques soient beaucoup plus prudentes dans le financement de ce marché, ce qui pour nous peut être le signe d'une exclusion d'un certain nombre d'acquéreurs dans ce marché-là.
Vous n'avez pas de crainte d'une bulle et d'un éclatement de cette bulle?
Non. Non, cette discussion-là sur la bulle, non, elle n'y est pas. Pourquoi? Parce que le marché réagit différemment suivant les lieux. Paris et les 10 plus grandes villes de France, elles sont portées par un soubassement économique fort, une croissance de la population. Sur le reste de la France, la dynamique, elle est portée non pas par ce type de phénomène, mais par l'effet taux. Et en réalité, les prix sont restés très sages. Nous avons démontré qu'en zone rurale, les prix avaient baissé de 4% en 5 ans. Nous avons démontré également que dans les 40 plus grandes villes de France, nous avons des prix qui sont restés flat, qui sont restés de niveau. Donc pas de bulle.
Pas de bulle, conclut Jean-Marc Torollion, le président de l'AFNAIM. Il répondait à Anne-Laure Chouin. Jean-Louis Borloo réclame au Sénat l'ouverture d'une enquête parlementaire. Alors que son plan pour les quartiers populaires a été enterré il y a un an par le président, l'ancien ministre de la Ville veut comprendre pourquoi la politique de rénovation urbaine s'est totalement arrêtée, selon ses termes. Pour Jean-Louis Borloo, il y a urgence à relancer une politique pour les quartiers défavorisés qui sont, dit-il, le sas de notre République, une aire d'accueil. On aurait dû m'aider. « On m'a laissé devenir prêtre », regrette Bernard Prénat. L'ancien curé de Sainte-Foy-lès-Lyon, jugé pour de multiples agressions sexuelles sur de jeunes scouts, a pointé aujourd'hui la responsabilité de sa hiérarchie. Plusieurs fois alertée de ses pulsions, elle n'a pas exigé qu'il se fasse soigner. Mais lors de cette audience, l'ancien aumônier s'est trouvé en difficulté. Le père Prénat a tenté de minimiser les faits sans vraiment convaincre Christophe Vincent.
Il y avait énormément d'enfants, je ne les agressais pas tous, Dieu merci. La phrase malheureuse rappelle le grâce à Dieu du cardinal Barbarin et elle illustre bien l'attitude de Bernard Prénat qui nie avoir été un agresseur en série. François Deveau, cofondateur de La Parole Libérée, maintient.
C'était quand même une certaine usine et il choisissait ses proies au sein d'un vivier et c'est exactement ça, il y avait des veillées, un feu et puis voilà, il sélectionnait les enfants. Moi j'ai vraiment ce souvenir là. Ouais.
Bernard Prénat n'a jamais caché ses penchants à ses confesseurs. J'avouais mes fautes, j'avais l'absolution, je promettais d'arrêter et je recommençais. L'avocat d'une victime, Yves Sauvert, lui demande si son sacerdoce était une imposture. Non, c'est un drame.
On a le sentiment finalement que pendant 30 ans, Prénat, il s'est arrangé avec lui. Le bon Dieu, il était à côté. Et que finalement, il y a eu donc ce clivage dont on parle effectivement au niveau psychiatrique. Mais j'ai de la peine à croire qu'il peut y avoir un prédateur sexuel et puis que par miracle, ce prédateur sexuel s'éteint lorsqu'il donne l'Eucharistie. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît une espèce d'alchimie complètement incompréhensible.
Prénat s'explique sur des viols prescrits commis sur un adolescent qu'il croyait consentant. « J'ai mal fait », reconnaît l'ancien prêtre, « mais à l'époque, j'avais l'esprit tordu ».
Christophe Vincent au tribunal correctionnel de Lyon. La France à la traîne en matière de transplantation d'organes. L'association France Transplant s'alarme de l'insuffisance du nombre de greffes. Alors que 24 000 patients sont en attente, il y en a eu un peu moins de 6 000 en 2018, chiffre en baisse par rapport à 2017 et très loin de l'objectif de 7 800 greffes fixé dans le plan greffe pour 2021. La première cause reste la pénurie d'organes, par manque d'information ou de sensibilisation des proches. Mais l'association souligne un autre point. Point important, Céline Autin, les greffes sont les victimes collatérales de la crise de l'hôpital public.
Dans son enquête auprès des centres de greffe de reins, France Transplant relève le manque de médecins, chirurgiens, anesthésistes en nombre insuffisant pour opérer et suivre les patients. Et quand un bloc opératoire est fermé dans un hôpital, impossible de le rouvrir pour des actes non programmés comme les greffes. Jean-Louis Touraine, président de France Transplant.
Le malade qui vient en urgence, vous ne pouvez pas lui dire de revenir la semaine prochaine. Et la transplantation, si vous n'utilisez pas l'organe le jour où il est prélevé, il pourra pas être utilisé du tout. Donc ce sont des occasions perdues et des nombres de transplantations qui ne sont pas faites parce que l'organisation d'un hôpital en souffrance y fait obstacle.
Et c'est bien sûr une question de budget. Les moyens financiers à disposition des services de greffe sont perçus comme trop faibles.
Quand tel service de transplantation développe une activité plus importante, ça va lui demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail. Parce que il y a toutes les transplantations de l'année qui seront plus nombreuses que l'année précédente, mais il y a les malades à suivre après, qui sont en nombre croissant. Si le nombre de médecins nommés dans le service ne progresse pas, rapidement ils sont saturés et ils peuvent plus en faire davantage parce que ils n'arrivent pas à suivre la totalité des malades. Donc il faut qu'ils aient les moyens pour augmenter leurs effectifs. C'est pas les personnes qui seront mieux payées, mais c'est les services.
Autre problème rapporté par l'association, les moyens destinés aux grèves sont souvent dilués dans le budget global de l'hôpital. France Transplant appelle donc les pouvoirs publics, l'ARS et les directeurs d'hôpitaux à faire preuve de plus de volonté sur le dossier.
Mais selon l'agence de biomédecine, l'activité de greffe est repartie à la hausse sur 2019 grâce à l'effort collectif de l'ensemble des acteurs de la chaîne du prélèvement à la greffe. Pas de précision à ce jour sur l'ampleur de cette hausse. Demain jeudi, le temps sera généralement ensoleillé, mais il pleuvra sur la Bretagne. Des températures douces de 3 à 10 degrés pour les minimales, 11 à 16 pour les maximales, jusqu'à 18 au pied des Pyrénées. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.